à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, 27e jour de guerre au Moyen-Orient. La Maison-Blanche dit voir des signaux forts en faveur d'un accord avec l'Iran, alors que les frappes se poursuivent un peu partout dans la région. L'armée israélienne affirme avoir tué 700 membres du Hezbollah libanais depuis la reprise des combats le 2 mars au Liban. Et enfin, le Parlement européen valide un net durcissement de la politique migratoire du continent et approuve l'idée de créer des hubs de retour. C'est notre dossier du jour à suivre. Au 27e jour de guerre au Moyen-Orient, la Maison-Blanche dit voir des signaux forts en faveur d'un accord avec l'Iran, alors que les frappes se poursuivent un peu partout dans la région. À Beyrouth, au moins 5 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes. De son côté, l'armée israélienne annonce la mort d'un soldat dans le sud du pays où des affrontements l'opposent au Hezbollah pro-iranien. L'armée israélienne affirme avoir tué au total membre du Hezbollah libanais depuis la reprise des combats le 2 mars au Liban. Le Liban va saisir le Conseil de sécurité de l'ONU au sujet des attaques d'Israël qui menacent sa souveraineté, une annonce du gouvernement. De son côté, le président américain Donald Trump assure que l'opération militaire en Iran est extrêmement avancée sur le calendrier initial et déclare qu'elle finira bientôt. Des négociations indirectes sont en cours pour mettre fin à la guerre. Le Pakistan annonce jouer un rôle d'intermédiaire. Les pays du Golfe demandent à participer aux négociations. Et enfin, dans le reste de l'actualité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé être arrivé en Arabie Saoudite, une visite qui n'avait pas été annoncée. Kiev espère conclure des accords sur la vente de drones militaires avec plusieurs pays du Golfe. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Premier dossier, il s'agit d'un net durcissement de la politique migratoire européenne. Le Parlement européen a validé un texte qui doit permettre d'augmenter le nombre d'expulsions. Salué par les eurodéputés de droite et d'extrême droite, le dispositif approuve le concept de hub de retour, des centres pour envoyer des migrants en dehors de l'Union européenne. On fait le point avec vous, Marc-Aurel Barrez.
Concrètement, il s'agit d'envoyer les personnes dont la demande d'asile a été refusée, qui doivent quitter le territoire dans des centres hors de l'Union européenne, où elles pourraient aussi être détenues. Objectif, augmenter le nombre d'expulsions, car aujourd'hui, 20% des décisions d'expulsion sont effectivement appliquées dans l'Union. Un chiffre vivement critiqué par les partisans d'une ligne plus ferme. Le texte prévoit aussi un renforcement des sanctions pour les personnes déboutées qui refusent de partir, confiscation des documents d'identité, détention et interdiction de retour prolongé, des mesures qui étaient attendues par une majorité des États membres. Alors, côté réaction, la droite et l'extrême droite saluent cette décision. L'eurodéputé François-Xavier Bellamy se félicite. Le texte garantira un principe simple. Si vous venez illégalement en Europe, soyez sûr que vous n'y restez pas. À l'inverse, l'ONG International Rescue Committee dénonce un recul historique des droits des réfugiés et s'inquiète notamment d'une multiplication des détentions, y compris pour les personnes les plus vulnérables, comme les enfants.
Des centres de détention hors Union européenne, est-ce que c'est inédit ?
Non, l'idée n'est pas nouvelle. L'Italie l'a testé en Albanie, mais le centre est resté longtemps vide, bloqué par des recours en justice. Même scénario entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Un accord conclu, puis abandonné par Londres face aux obstacles judiciaires. Plusieurs États membres, dont le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas, ont formé un groupe pour étudier ces tentatives. D'autres pays plus sceptiques, dont la France, sont restés en retrait des discussions. Prochaine étape, si l'on en croit le ministre allemand de l'Intérieur, conclure d'ici la fin de l'année des accords avec des pays tiers.
Merci Marc-Aurel Barrez pour toutes ces précisions. Second dossier du jour, les relations entre la France et l'Algérie. Un léger apaisement semble se dessiner entre les deux pays. La reprise d'un dialogue exigeant sur le plan migratoire et sécuritaire commence à produire de premiers résultats, selon le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Le 15 mars, il s'est entretenu à son initiative avec son homologue algérien, une première depuis plusieurs mois et qui s'inscrit dans la continuité profiter de la relance de la coopération bilatérale amorcée en février. Pour Michel Bizac, le président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, cette reprise du dialogue sur le plan migratoire pourrait avoir une incidence sur les relations commerciales entre les deux pays. On l'écoute.
Elles ont été pénalisées par des tensions, je dirais, plus que migratoires, politiques. Parce qu'avant d'être migratoires, elles sont d'abord politiques. Aujourd'hui, on a eu des attitudes en France qui étaient extrêmement nocives pour la relation. On a eu certains ministres de l'Intérieur qui avaient fait de l'Algérie un sujet toxique.
Vous parliez de Bruno Retailleau, sans le nommer. La nomination de Laurent Nunez, vous le ressentez, a un effet concret, un impact également sur l'économie entre la France et l'Algérie, sachant que Laurent Nunez est ministre de l'Intérieur.
Alors, il est ministre de l'Intérieur, mais il est surtout assez modéré dans ses propos. D'abord, c'est un ancien d'Algérie, puisque je crois qu'il est né à Oran, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il est apprécié ici, et c'est pas pour rien qu'il a été reçu, et ce n'est pas pour rien que c'est le premier qui est revenu ici, parce qu'il a un dialogue apaisé, et donc c'est important. Dialogue apaisé, d'ailleurs, qu'avait garder M. Barrot. Donc aujourd'hui, c'est très important que tout ça reprend. Mais il est important parce que je vais peut-être passer du coq à l'âne, mais aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de notre voisin de l'autre côté de la Méditerranée. Quand vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient, il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir cette attitude avec un voisin qui fournit et qui nous fournit le gaz. N'oublions pas que l'Algérie est le premier fournisseur de la France en matière de gaz, notamment avec ses contrats avec Engie et Total. Et
justement, nous allons revenir sur cette situation géopolitique au Moyen-Orient, l'impact que cela peut avoir. Je souligne que Laurent Nunez est né à Bourges, mais ses ancêtres ont longtemps vécu dans la région d'Oran, en Algérie. Justement, cette guerre au Moyen-Orient, les incidences sur le prix du pétrole, est-ce que cela peut accélérer un rapprochement économique entre Paris et Alger?
Il suffit de regarder l'agenda politique de l'Algérie pour le mois d'avril. En ce moment même, vous avez Georgia Meloni qui est ici. Vous aurez, je pense, la semaine prochaine, le Premier ministre espagnol. Puis, je crois que le président de la République, M. Tebboune, se rend en Allemagne. Puis, vous avez la visite du pape du 13 au 15. Bientôt, prochainement, je l'espère, une visite du MEDEF à Alger. Je dois dire que l'Algérie est revenue au centre des préoccupations de tous, et notamment de l'Europe. Parce que c'est évident que en possédant une partie du gaz qui arrive en Europe, l'Algérie maintenant redevient, et ce qu'il a toujours été et ce qu'il aurait jamais dû cesser d'être, un pays important pour l'Europe.
Vous venez d'écouter Michel Bizac, président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.